présentée ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. 20 mesures pour réformer la politique migratoire française. Que faut-il en retenir? Quelle peut être l'efficacité de cette réforme? On y revient dans un instant avec Anne Fauquemberg et Annabelle Grelier. La justice se saisit des accusations de l'actrice Adèle Haenel contre le réalisateur Christophe Ruggia. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs. Aux États-Unis, les défaites électorales de plusieurs républicains soutenus par Donald Trump fragilisent un peu plus le président américain. Correspondance de Grégory Phillips. Et puis enfin, nous irons à Shanghai découvrir le nouveau centre Pompidou qui ouvrira demain au public. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Par ces mots, Édouard Philippe montre la volonté du gouvernement de choisir qui la France accueille et comment elle veut respecter ses principes. À l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration et l'intégration, le Premier ministre a détaillé la vingtaine de mesures dont certaines avaient déjà filtré hier. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Quelles sont donc les principales évolutions ?
Principale évolution, évidemment, c'est ce délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile au niveau de la protection universelle maladie. Agnès Buzyn assume, précisant que ces demandeurs d'asile bénéficiaient de règles dérogatoires plus favorables que pour les Français et les étrangers en situation régulière, mais que les mineurs ne seraient toutefois pas concernés. Puis dans la perspective de ce plan de lutter contre l'immigration clandestine, elle annonce une réduction du maintien dans les droits à la protection maladie pour les sans-papiers et les personnes déboutées de leur demande d'asile.
Ce délai est actuellement de 12 mois pour éviter les ruptures de droits en cas de procédure de renouvellement de titre. Il est proposé de faire passer ce délai de 12 à 6 mois pour limiter les maintiens de droits non justifiés sans engendrer des ruptures de droits importantes parmi les ressortissants étrangers en instance de renouvellement de leur titre de séjour.
La demande d'AME, l'aide médicale d'État, devra également se faire sur, je cite, comparution physique pour éviter les fraudes. Discours amplifié par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il annonce la fin du cumul entre l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile, et le RSA, l'évacuation d'ici la fin de l'année des campements du nord-est parisien et la création de nouveaux centres de rétention.
Nous allons continuer à lutter inlassablement contre les réseaux d'immigration irrégulière et amplifier nos efforts pour que nos décisions d'éloignement soient respectées. Nous allons donc ouvrir 3 nouveaux centres de rétention administrative à Lyon, à Bordeaux, à Olivet. Et je tiens à souligner que d'ici 2020, le nombre de places en centres de rétention administrative aura augmenté de 35%.
L'aide au développement sera aussi conditionnée à l'engagement des pays tiers de reprendre les déboutés du droit d'asile. Dans le même temps, 16 000 logements seront réquisitionnés pour les réfugiés l'an prochain. Il est aussi question d'attirer 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027.
Le député Les Républicains Éric Ciotti dénonce des mesures sans ambition qui vont selon lui faire augmenter l'immigration. Au sein du parti, beaucoup jugent le discours volontariste, mais le texte inefficace. Arnaud Viala, député LR de l'Aveyron, est un peu plus modéré, lui, dans ses critiques.
Le point positif, c'est que les propositions qui ont été faites par un certain nombre de députés lors du débat sur la loi Asile et Immigration et rejetées à ce moment-là par la majorité, ressurgissent aujourd'hui par la voix du gouvernement, ce qui signifie qu'il y a une forme de constat d'insuffisance du texte qui a été voté il y a moins d'un an. Deuxièmement, le point plus négatif, je prends l'exemple de l'immigration qualifiée d'économique et qu'on réglerait par des quotas. Si on met ça en place, idée à laquelle je souscris assez, il faut quand même s'interroger vraiment sur les raisons pour lesquelles, dans un pays où on est très loin du plein emploi, des Français ne répondent pas à ces offres. C'est une vraie question nationale, je pense. Et puis, le point pour moi le plus important de vigilance, c'est le fait que ces préconisations que fait aujourd'hui le gouvernement ne résolvent pas la question de l'immigration clandestine. On a des centaines de milliers de clandestins qui sont sur le territoire national, soit ne sont pas connus des services, soit lorsqu'ils le sont, ne sont pas reconduits et donc vivent de manière parfaitement illégale sur nos terres.
Le député Les Républicains Arnaud Viala au micro de Stéphane Robert. Concernant l'instauration de quotas pour l'immigration professionnelle en fonction de la branche d'activité, les concertations sont censées débuter dans les prochaines semaines. Les premiers décrets et les premières circulaires étant annoncés pour la fin de l'année. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Avec la mise en place de ces objectifs quantitatifs, qu'est-ce qui va changer?
Bon, alors il faut savoir aujourd'hui que la France octroie 33 000 titres de séjour aux motifs économiques chaque année. Les nouveaux quotas seront du même ordre, dit-on au ministère du Travail, il ne s'agit donc pas d'ouvrir plus grand les portes, mais de choisir les immigrés dont nous avons besoin. Enfin, en théorie. Alors, je vous donne l'exemple d'explication d'Edouard Philippe ce matin aux journalistes. Si on considère qu'il y a besoin de 3000 peintres industriels ou 2000 couvreurs, et s'il y avait brutalement 75 000 demandes de couvreurs qui diraient « moi je suis couvreur, je veux venir en France », il faudrait qu'on s'arrête parce qu'on aurait très largement dépassé l'objectif quantitatif. Alors l'idée peut paraître pragmatique, mais pour la plupart des experts de la question de l'immigration économique, c'est une mesure faite pour plaire à l'opinion publique. Car derrière une idée simple, ce sont des outils très complexes à mettre en place. Et les outils en place aujourd'hui, comme la liste des métiers en tension, sont déjà obsolètes. Cette liste n'a pas été actualisée depuis 2008, elle ne correspond plus à la réalité économique du pays et elle sert encore aujourd'hui à octroyer des titres de séjour. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et c'est la seule vraie bonne nouvelle selon les experts, va réunir donc les partenaires sociaux d'ici la fin du mois pour que soient lancées les études de remise à jour. Les experts enfin estiment que dans les mesures annoncées, il manque cruellement des mesures d'harmonisation des critères. Les règles d'octroi de visa ne sont pas les mêmes, par exemple, d'une préfecture à l'autre. Et puis surtout de la simplification. C'est aujourd'hui un parcours du combattant pour un employeur qui voudrait embaucher un étranger.
Annabelle Grelier. Le parquet de Paris se saisit des accusations de l'actrice Adèle Haenel. La jeune femme a mis en cause le réalisateur Christophe Ruggia, lui reprochant attouchement et harcèlement alors qu'elle était adolescente. Adèle Haenel s'est confiée à Mediapart, qui lui a donné la parole et a publié une longue enquête à charge, mais l'actrice n'avait pas porté plainte. Aujourd'hui, Florence Turm, une enquête préliminaire est ouverte pour des chefs d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité et de harcèlement sexuel.
Oui, le parquet de Paris s'est effectivement saisi de lui-même, comme il en a la possibilité, lorsque des faits délictuels sont portés à sa connaissance, en l'occurrence par voie de presse. C'est assez rare, mais pas exceptionnel. Le parquet national financier était intervenu de la même manière, par exemple, lors de la révélation de l'affaire Fillon. Dans le cas précis, il peut le faire dans la mesure où les faits dénoncés par Adèle Haenel ne tombent pas sous le coup de la prescription. Depuis 2014, une victime mineure d'agression sexuelle peut porter plainte jusqu'à 20 ans après sa majorité. Voilà pour le cadre juridique que cette affaire a très largement débordé en l'espace de 3 jours. Dans l'article de Mediapart, l'actrice expliquait précisément ne pas vouloir porter plainte car elle ne faisait pas confiance à, disait-elle, une justice qui condamne si peu les agresseurs. Ce qui a fait réagir la garde des Sceaux ce matin sur France Inter. Elle a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situation, estime Nicole Belloubet, tout en saluant le caractère très courageux de cette prise de parole. Les déclarations d'Adèle Haenel ont suscité une vague d'émotions et de réactions sur les réseaux sociaux et dans le monde du cinéma, avec notamment la décision de la Société des réalisateurs de films de radier Christophe Ruggia. Dans son droit de réponse publié par Mediapart, le réalisateur nie aujourd'hui toute agression à l'égard de la jeune adolescente d'alors, tout en reconnaissant l'emprise qu'il a pu exercer. Il lui demande aussi de lui pardonner, mais dénonce par ailleurs le pilori médiatique dont il s'estime victime, et ce, quelles que soient les suites judiciaires de l'enquête préliminaire qui s'ouvre aujourd'hui.
Florence Turm. Pendant l'année scolaire 2018-2019, 58 suicides ont été recensés au sein des personnels de l'éducation nationale. Un chiffre publié par le ministère qui se penche aujourd'hui en urgence sur le malaise des professeurs avec une réunion exceptionnelle du CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité. À cette occasion, Hakim Kasmi, un rassemblement intersyndical était organisé à Paris.
Oui, multiplication des réformes, manque de reconnaissance, pression de la hiérarchie et classe surchargée, le malaise est profond chez les enseignants, des enseignants qui espèrent que le ministère, à l'issue du CHSTC qui est toujours en cours, ne sera plus dans le déni. Mathieu Legothétis, secrétaire départemental du SNES 93 et professeur d'histoire-géographie à Villemomble en Seine-Saint-Denis.
Jean-Michel Blanquer, lorsqu'il a vu que les mobilisations démarraient, a dit que finalement c'était 12 tentatives de suicide ou suicide sur Créteil. C'était pas si énorme que ça. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait déjà une prise en compte de la réalité et après qu'il y ait des annonces. Alors bon, on se fait pas trop d'illusions, mais qu'il y ait quand même des annonces de qu'il soit autre chose qu'une prime de 10 000 euros dans 5 ans, qui est vraiment des moyens créés, des baisses d'élèves par classe, une remise en cause des réformes qui font beaucoup souffrir les personnels en ce moment. Voilà.
Pour tenter d'apaiser les tensions, Jean-Michel Blanquer a déjà annoncé dimanche que les jeunes du service civique pourraient assister les directeurs d'école, insuffisant pour Marie-Hélène Clar, secrétaire départementale 93 et directrice d'école à Saint-Denis.
Les collègues qu'on avait avant l'arrivée de ce gouvernement aidaient, fluidifiaient tout le fonctionnement de l'école. Donc vraiment, il y a urgence à créer ces emplois avec de vrais statuts, de vrais salaires et qui sont réellement utiles au fonctionnement quotidien de l'ensemble de l'école.
Marie-Hélène Clare, hein, du SNUPP 93. Urgence aussi pour les parents qui craignent une dégradation de l'enseignement. Anne, du collectif de parents d'élèves de l'école Maheuel, où s'est suicidée la directrice d'école de Pantin, Christine Renon.
L'école publique va mal en Seine-Saint-Denis. On voit des parents qui hésitent, qui fuient, qui partent vers le privé, qui déménagent. Là, à Méhul, on attend que l'école se reconstruise et en Seine-Saint-Denis, on veut une école publique solide.
À l'issue du SACHTC, les syndicats attendent des mesures concrètes qui ne soient pas juste la communication politique, car depuis la rentrée de septembre, il y a déjà eu 11 suicides dans l'enseignement.
Hakim Kasmi. Le député de l'Inde, Damien Abad, va succéder à Christian Jacob à la présidence du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Damien Abad, 39 ans, l'a emporté au second tour par 64 voix, face à Olivier Marleix, 37 voix. Un résultat qui a pu surprendre même dans son propre camp, Pierre Neveu.
Oui, il y avait deux favoris pour ce scrutin, Olivier Marleix et Damien Abad. Et si l'on pouvait imaginer que les députés LR choisiraient un homme rompu aux arcanes de l'Assemblée nationale et au jeu de pouvoir au sein des Républicains, eh bien les députés ont fait ce matin le choix de la jeunesse, quitte à bousculer l'ordre établi. Damien Abad, député de l'Inde, n'a que 39 ans. Il est l'une des figures montantes du parti, vice-président des LR, numéro 2 du groupe à l'Assemblée depuis 2017. C'est un passionné de politique. Il a 29 ans, en 2009, quand il entre au Parlement européen, devenant alors l'un des plus jeunes parlementaires européens en exercice. Damien Abad fait ensuite le choix du Palais Bourbon. Depuis 2012, il est le seul élu handicapé dans l'hémicycle. De sa maladie, il en a fait une force et non un obstacle, mais dénonce dans une vidéo les entraves quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes handicapées.
Aujourd'hui, une nouvelle ségrégation, encore plus silencieuse, a lieu dans notre pays. L'exclusion des personnes en situation de handicap.
Alors, en politique, Damien Abad est issu de la famille du centre-droit, mais pour les législatives de 2012, il quitte Hervé Morin pour suivre Nicolas Sarkozy, puis Bruno Le Maire lors de la primaire. Il revendique une fidélité à ses idées et à son parti. Cette présidence de groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad l'a travaillé sur le long terme, menant une campagne très offensive. C'est donc un homme au parcours atypique qui prend aujourd'hui la présidence du groupe LR à l'Assemblée. Il revendique une certaine liberté. Je n'ai, dit-il, ni de plan de carrière, ni de limite. Voilà peut-être pourquoi aujourd'hui, dans sa famille politique, certains soulignent qu'il a suivi de nombreux courants. Le Maire, puis Fillon, puis Wauquiez.
Pierre Neveu, merci. Le FN et son entourage ont-ils financé leurs campagnes électorales grâce à des escroqueries au préjudice de l'État? Sept protagonistes de l'affaire, dont deux cadres du parti, comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris. Le Front National, devenu depuis Rassemblement National, est jugé pour complicité des escroqueries dont sont accusés les dirigeants du mouvement Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen, et la société de communication Riwal de Frédéric Chatillon lors des élections législatives de 2012. Bonsoir Antoine Marais.
Bonsoir.
L'audience d'aujourd'hui s'est concentrée sur des irrégularités de procédure soulevées par la défense.
Effectivement, les avocats ont multiplié les attaques contre la validité de l'ordonnance qui a saisi le tribunal en octobre 2016 après 3 ans d'investigation. La défense reproche à l'accusation de ne pas être en mesure de chiffrer l'allégation de surfacturation. L'affaire se concentre en particulier sur les kits de campagne standardisés, des tracts, des affiches, des sites internet imposés par le FN à 525 candidats aux législatives et fournis par Riwal au prix de 16 650 euros pièce. Valerand de Saint-Just est le trésorier du FN. Il est renvoyé pour recel d'abus de biens sociaux.
Nous avons débattu plusieurs heures sur les nullités de la procédure. Les deux procureurs nous ont répondu très longuement, ce qui veut dire que nos arguments sont très sérieux. Mais par rapport au caractère excessif de la marge qui serait l'origine de l'escroquerie, le procureur nous a dit, écoutez, on vous a pas dit de combien elle était excessive, c'est tout à fait normal, on vous le dira pendant le cours des débats. Voilà, vous êtes poursuivi pour vol, vous dites, ok, mais qu'est-ce que j'ai volé? Ah ben, on vous le dira pas, on va vous le dire dans le cours des débats, hein. Vous venez dans le tribunal et peut-être dans 2-3 jours, on vous dira ce que vous avez volé, une voiture, un œuf ou un stylo. C'est tout à fait extraordinaire et nous restons sur le fait que nous ne pouvons pas venir nous défendre devant une juridiction alors que nous ne connaissons pas ce dont nous sommes accusés.
Le tribunal doit se prononcer demain à la mi-journée sur ces recours auxquels le parquet s'est opposé. En cas de rejet, l'audience reprendra avec l'examen du mécanisme de la fraude présumée.
Antoine Marette. En Grèce, le chef du parti néo-nazi Obdoré déposait pour la première fois depuis le début de son procès en 2015 et environ 3000 manifestants ont fait le siège de la cour d'assises ce matin. Correspondance d'Angélique Kourounis à Athènes.
Sans surprise, le fondateur du parti néo-nazi Obdoré a plaidé non coupable devant une salle comble avec une double rangée de policiers armés qui séparaient le public antifasciste de celui venu soutenir Obdoré. Nikos Michaloliakos a rejeté tous les chefs d'accusation, tant celui d'être à la tête d'une organisation criminelle que celui d'avoir ordonné l'assassinat du rappeur antifasciste Pavlos Fissas, meurtre qui a permis l'ouverture des poursuites judiciaires contre l'ensemble du groupe parlementaire d'Obdoré de 2012. Il y a plus de 4 ans maintenant. Son parti est un parti nationaliste, a-t-il souligné, et non néo-nazi. Le salut qu'il fait la main levée est le salut de tous les patriotes de l'entre-deux-guerres et jamais, au grand jamais, il n'a poussé ses troupes à la moindre violence. Lorsque la présidente lui a fait remarquer que dans de nombreux discours il parle justement de violence, il prend la Marseillaise en exemple. Écoutez, dit-il, les Français chantent toujours qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ce n'est pas violent, ça ? Pour cet admirateur de la dictature des colonels, ce procès est un complot politique visant à affaiblir Obdoré, qui est resté 7 ans troisième force politique du pays, mais qui n'est pas entré au Parlement aux dernières législatives de juillet. Contre toute attente, le procès va continuer demain. Les propositions de la procureure sont attendues en janvier 2020 et le verdict, lui, au printemps de la même année.
À un an de la prochaine élection présidentielle américaine, les Républicains enregistrent deux revers importants aux élections locales. Dans le Kentucky, c'est un démocrate qui décroche le poste de gouverneur selon des résultats encore provisoires. Et dans l'État de Virginie, sur la côte Est, les deux chambres passent à gauche. Après l'élection à un poste local d'une mère de famille qui avait fait la une des médias en 2017, elle avait alors fait un doigt d'honneur au président Trump. On retrouve Grégory Phillips à Washington.
Le 28 octobre 2017, Julie Briskman est à vélo sur une petite route de Virginie quand elle se fait dépasser par le convoi automobile de Donald Trump qui sort de son Golf de Sterling. Dans un geste réflexe, expliquera-t-elle ensuite, la cycliste adresse un doigt d'honneur au convoi présidentiel. Un journaliste de l'AFP saisit la scène. L'image fait quasi immédiatement le tour des réseaux sociaux et la une de la presse américaine. Et 10 jours plus tard, Briskman est licenciée par son employeur, une entreprise sous-traitante du gouvernement américain. À 52 ans, cette mère de deux enfants prend donc sa revanche en remportant sous l'étiquette démocrate un siège dans ce comté où précisément se trouve le golf appartenant à Trump. Au-delà de l'anecdote, c'est toute la Virginie qui est désormais dominée par les démocrates. Hier, ils ont remporté le Sénat local ainsi que la Chambre des délégués. Le gouverneur Ralph Northam est aussi un opposant à Trump. La Virginie, État voisin de Washington, qui vire du rouge au bleu. Cette situation est inédite depuis 1990.
Au dernier jour de sa visite en Chine, Emmanuel Macron affiche son entente avec Xi Jinping. Les deux présidents ont défendu ensemble l'accord de Paris sur le climat et ils ont publié un texte commun intitulé « L'appel de Pékin sur la conservation de la biodiversité et le changement climatique ». La visite a aussi été placée sous le signe de la coopération culturelle. Le président français a inauguré hier la première antenne du Centre Pompidou hors d'Europe qui ouvrira demain au public. Anne Chepov, vous avez visité en avant-première ce Centre Pompidou de Shanghai.
C'est dans un bâtiment de 25 000 m² situé sur les berges de l'impressionnant fleuve Huangpu que le centre Pompidou s'est installé. Il est situé dans un secteur en plein développement, une ancienne zone aéroportuaire, dans ce que l'on appelle ici un corridor culturel. Le bâtiment allie sobriété et simplicité. 3 volumes disposés autour d'un hall central accueillent 3 galeries dans lesquelles sont présentées les expositions. Pour l'ouverture, un parcours semi-permanent d'une durée de 18 mois rassemble une centaine d'œuvres autour du thème du temps. Il intitule The Shape of Time, la force du temps, et donne à voir les grands courants de l'art des 20e et 21e siècles. Marcella Lista, conservatrice en chef au Centre Pompidou.
C'est une vision évidemment synthétique, rapide, mais qui permet de comprendre les grands moments de l'évolution de l'art au cours de cette période.
Tous les grands noms de l'art moderne et de l'art contemporain sont ici réunis. Les chefs-d'œuvre de Picasso, Giacometti, Soulages, Pollock, Boltanski, Richter, mais aussi de Chinois comme Zhao Wuki. À ce parcours semi-permanent s'ajoute une exposition temporaire de 6 mois, entièrement consacrée aux œuvres vidéo de la collection du Centre Pompidou. 15 créations sur le thème de l'observation. Marcella Lista.
C'est un grand sujet à la fois scientifique et artistique, mais c'est aussi un grand sujet d'actualité en Chine et ailleurs, avec le développement des webcams, des caméras de surveillance et de tous ces réseaux à la fois d'observation et d'automatisation qui nous envahissent dans le quotidien. C'est un sujet qui est très débattu en Chine et je trouvais très intéressant de voir comment les artistes, dès les années 70, ont commencé à s'intéresser à ces questions.
Avec cette ouverture à Shanghai, le Centre Pompidou espère accroître sa notoriété en Chine. Le pays offre en effet un formidable potentiel de visiteurs. Shanghai, à elle seule, compte plus de 24 millions d'habitants. Être présent en Chine permet aussi de se rapprocher de mécènes pour que la collection du Musée national d'art moderne continue de refléter les évolutions de l'art. Son directeur, Bernard Blisten.
Ce qu'il faut établir, c'est une confiance. Et je crois qu'à travers ce projet, nous témoignons d'une confiance dans la culture du pays. Certains grands donateurs nous avaient déjà offert des œuvres quand j'avais fait différents voyages de prospection. Il est clair qu'ils auront certainement davantage envie de le faire qu'auparavant.
Le Centre Pompidou trouve enfin à Shanghai de nouveaux financements. Le partenariat de 5 ans avec la société d'aménagement West Boon Group, propriétaire et exploitant du lieu, lui offre plus de 4 millions d'euros de revenus chaque année pour l'utilisation de la marque Centre Pompidou et pour l'ensemble des prestations fournies, prêt des œuvres, conseils et ingénierie culturelle.
Anne Chepo, notre envoyée spéciale à Shanghai. Le temps sera perturbé demain, surtout sur les côtes de la Manche et sur un bon quart sud-ouest du pays. Les températures, 4 à 12 degrés du nord au sud au lever du jour, 8 à 12 l'après-midi jusqu'à 17 en bord de Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.